Bonjour à tous, merci d'être avec nous. On est un petit peu en retard. On va passer une heure avec Samantha Lailly. On va pouvoir parler de sa douzaine de livres en très peu de temps et de toutes les thématiques. Avant de commencer un petit peu, Samantha, peut-être que tu peux nous dire comment tu en es venue à l'écriture, quels sont tes auteurs qui t'ont marqué, quel est le substrat qui a fait que tu es devenue écrivain ?
On va dire qu'il y a un double substrat, puisque j'ai une relation avec grande lectrice depuis que j'ai 12-13 ans. J'ai été marquée par des sagas comme Harry Potter, La Croisée des Mondes de Philippe Pullman, L'Assassin Royal de Robin Hobb, qui ont été des grandes révélations. Mais je suis une énorme gameuse, pour dire. Et des sagas comme Final Fantasy, Seven of Tetsu, encore Chrono Trigger, Chrono Cross, ont vraiment irrigué mon imaginaire quand j'avais 12-13 ans. On va dire, mis le pied à l'étrier pour l'écriture et globalement pour l'imaginaire.
À partir de quel moment tu t'es mis à avoir envie toi-même de raconter tes propres histoires?
Alors, hormis les journaux intimes, secrets dont on ne parle pas, vers 12 ans, j'ai commencé à écrire des romans. Donc, j'espère qu'ils sont bien enfouis dans un vieux disque dur et qu'on ne les reverra jamais. Mais j'avais déjà écrit pas mal de romans qui étaient des débuts de saga, bien sûr, avec un tome écrit et puis très découragé, je ne le suivais pas. Mais voilà, il y a un certain nombre de romans qui sont en stock. Et les derniers romans que j'ai terminés, c'était Souvenirs perdus quand j'avais 15 ans. Il y a un roman que j'ai complètement écrit 10 ans plus tard et qui est sorti maintenant. Et vraiment, le premier publié, c'était Oraison, que j'ai écrit quand j'étais au lycée, en fait. Où là, je me suis vraiment appelée à un projet long terme où j'ai réussi à terminer.
Parle-moi un peu de ce premier roman. Comment ça s'est fait? C'est sorti en 2009, chez Mille Saisons. Aussi, peut-être ta relation à ce premier éditeur. Comment ça s'est fait un petit peu tout ça?
Alors, à l'époque, quand j'avais 15-16 ans, j'étais comme beaucoup de gens sur des forums, et notamment sur le forum d'une petite maison qui s'est écrite, qui s'appelait Mille Saisons, où je postais mes textes qui étaient commentés, etc. Et j'avais écrit au réseau que j'envoyais au comité de lecture. Et au bout de 8 mois, j'ai eu une réponse positive avec comme condition d'écrire le tome 2. Donc voilà, on s'est appelé dans cette grande aventure, puisque ça a duré quand même quelques années. J'ai travaillé au roman pendant à peu près un an tout en écrivant le tome 2, pour qu'on soit sûr au moment de sa sortie, on ait absolument toute l'histoire pour pouvoir attraper les incohérences, etc. Et ensuite, voilà, l'histoire a démarré puisque Misebo, c'est une toute petite structure qui n'avait pas de diffuseur et qui globalement se faisait connaître en salon. Les salons, bah, d'ailleurs, comme les utopiales, que j'ai vu en 2009-2010 aussi. Et puis tout un tas de salons qui, petit à petit, ont fait que l'occasion a été éliminée pour l'imaginaire des lycéens. Et c'est vraiment l'obtention de ce prix-là qui a attiré l'attention de plusieurs éditeurs. Puisqu'en 2012, Mille Saisons s'est arrêtée, non pas pour des raisons financières, mais parce que des bénévoles qui s'occupaient de cette maison ont décidé de se marier, de prendre une maison dans le sud. Et finalement, voilà, c'est toute une histoire, on a démarré l'histoire.
Tu peux nous raconter un petit peu l'idée de base d'Oraison, comment est née l'idée et puis un petit peu la trame de l'histoire?
Oraison, en fait, l'idée est née dans un cours de philo. Globalement, mon esprit pendant les cours était d'écrire. Évidemment, c'est très mal. Le prof de philo a prononcé ce mot oraison pendant un des cours et je me suis dit il y a une charge symbolique et poétique absolument magnifique dans ce mot-là. J'ai envie d'écrire un roman qui tourne autour de ce mot. J'ai commencé à faire petites recherches et de là est née l'idée que l'oraison ne serait pas seulement un rituel, en fait, un discours funèbre, ce serait aussi quelque part un acte magique dans un monde où les gens sont persuadés que pour se réincarner et avoir une vie meilleure, au moment où l'on meurt, une certaine magie sur le corps. Et c'est de cette idée-là que partit la trame du roman, qui est globalement l'histoire de deux sœurs, qui sont les filles d'une importante corporation religieuse, qui sont confrontées à la mort de leur cadette, et qui vont essayer de faire la lumière sur cette mort-là, en évidemment découvrant tout un tas de manipulations du gouvernement qui utilise la mort à des fins commerciales.
Il y a déjà beaucoup de thématiques hein, dans ces quelques mots. La thématique de la fratrie, c'était quelque chose qui t'intéressait particulièrement?
Oui, c'est la dualité des deux sœurs, c'était très intéressant à explorer puisque la mort de la cadette va faire qu'elles vont avoir des réactions complètement opposées par rapport à ce deuil. L'une va être dans une quête de vengeance et d'absolu qui va la conduire son objectif va être de retrouver le meurtrier, quitte à, voilà, à faire éclater tous les carcans dans lesquels elle a grandi. Et l'autre, Mimi, l'aînée, en revanche, va voir finalement cette mort à une plus grande échelle, la recouper à des manipulations politiques, et va finalement, pour contrer ce deuil, avoir envie de mettre ses valeurs en étendard pour rentrer dans une forme de lutte contre le système qui la forge.
Un roman d'apprentissage, un roman de fin d'adolescence, de révolte. Est-ce qu'il y a des influences particulières que tu as retrouvées pour cette écriture?
Je pense qu'il y a deux grandes influences, mais La croisée des mondes de Philippe Holman reste une influence majeure sur le lien avec les animaux qui est quand même assez exploré également, puisqu'il y a toute une civilisation qui est formée en fait autour de ce lien de mémoire avec des animaux à un moment donné. Et l'autre grande influence, c'est Robin Hobb, l'assassin royal, sur l'évolution du projet des personnages, et d'être dans, finalement, essayer, en tout cas, d'être dans des nuances de gris, pas du tout dans quelque chose de manichéen, mais de montrer que finalement, les ressorts du pouvoir sont des failles purement humaines, quelque part. C'est ça qui m'a beaucoup influencé.
J'ai une petite pause, on va essayer de mettre des couvertures.
On aura les couvertures derrière nous qui défileront.
Et voilà. Vous allez pouvoir voir toutes les couvertures au fur et à mesure qui défilent depuis ce moment. Ça tourne vite quand même. Ouais, ça. C'était déjà de la science-fiction, c'était déjà plus loin de l'imaginaire avec une charge de fantaisie. C'était quelque chose de naturel, et qu'est-ce que ça te permettait en tant qu'écrivain?
La fantaisie, je trouve qu'elle permet finalement quelque part une extrapolation du réel, c'est-à-dire qu'on est plutôt dans une forme de métaphore. Je ne suis pas du tout dans des univers d'elfes, de créatures magiques, mais j'aime l'idée qu'un monde inventé dans lequel il y a de la magie, mais une magie qui est balisée quand même par va influencer en fait une société, ses systèmes de pensée. Et évidemment, c'est le cas pour raison du fait que les gens soient persuadés qu'ils peuvent se réincarner ensuite, ça va conditionner énormément de choses dans leur rapport au temps, leur rapport à la mort, leur rapport à la famille, etc. Et en même temps, on se rend compte que finalement, même si on a ce biais sociologique, on reste purement dans l'humain et que la fantaisie va pouvoir mettre un peu plus de poésie dans des paysages, des descriptions.
On va passer à Souvenirs perdus, autre trilogie, cette fois chez Cyrus. On l'a entendu, ton premier roman, tu as complètement retravaillé. Alors même chose, un peu les idées de départ, et puis la première trame. On est sur une île, on s'est enfermé. Une histoire de, en partie de révolte contre l'ordre d'établi. C'était une thématique qui te tenait à cœur à ce moment-là. J'essaye de trouver les fils.
Oui, c'est un motif assez récurrent, globalement, qui est en fait aussi dans notre société. La question du système, du moment donné, on va avoir des individus qui vont vouloir tirer leur profit des autres. C'est quelque chose qui est assez passionnant. Et de voir finalement pour des adolescents ou des adultes, à un moment donné, il faut avoir une posture pas forcément de révolte, mais en tout cas quelque chose de vraiment. Je pense que si on n'a pas ça quand on est adolescent,
Et est-ce qu'il y a une thématique sur la mémoire qui se dégage, je pense avec votre oraison et l'histoire de la perte d'une sœur. Et là, un personnage amnésique, est-ce que c'est aussi une thématique de travail, en fait,
oui, ça, c'est sûr que c'est en fait depuis très longtemps. C'est la question des souvenirs, bien sûr, et de la constitution de son identité. Puisqu'ici, il est amnésique, ce qui est finalement quelque chose d'assez cliché en littérature. Le personnage amnésique, c'est toujours bien pratique pour faire découvrir un univers à travers le prisme de quelqu'un qui a quelque part un œil neuf. Mais c'est aussi qui est-on quand on n'a pas de souvenirs et quand on sait que voilà, la mémoire des maladies neurodégénératives actuellement tire finalement des connexions dans les neurones qui ne se font pas. Je pense que c'est une interrogation qui est assez forte, qui reste dans pas mal d'éléments.
Là, on était pas mal en imaginaire. On va aller sur des choses peut-être un peu plus réalistes. Alors, je pense à ce qui nous vit, qui est un petit peu l'imaginaire. Hein, et puis à Ligne de vie. Comment tu places ces deux romans? Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu plus dans une thème sentimentale?
Ligne de vie, c'est sûr. Ouais. C'est un roman épistolaire qui raconte la correspondance amoureuse entre deux inconnus. Puisque un jeune homme qui s'appelle Antoine décide de déposer une lettre dans une boîte aux lettres que l'on pense être complètement inconnue. Et donc, une correspondance démarre. Et là, on est oui dans une veine un peu plus sentimentale. Ce qui nous lie, je ne dirais pas que c'est une veine sentimentale, même s'il est sorti dans une collection chimique en romance. Mais l'histoire de ce roman-là, c'est que finalement, on l'a placé un peu privé chez Milady parce qu'il avait été accepté par cet éditeur, tout en sachant qu'on sortait quand même un peu des codes de cet éditeur. Et là, on est dans l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Alice, qui a le don de voir les liens entre les gens, qui lui apparaissent sous forme de fils bleus, qui parlent de son éducation solaire. En fait, elle a accès à une cartographie relationnelle permanente, puisqu'elle voit toutes les fluctuations des gens qui sont autour, qui s'aiment, qui s'aiment. Et là, on est plutôt dans une métaphore et dans presque une psychanalytique, parce que le don d'Alice, la question qui se pose, c'est est-ce que c'est un élément magique ou surnaturel? Est-ce que c'est finalement, d'un point de vue psychanalytique, une hallucination quelque part, parce qu'elle est quoi? Donc on a en permanence cette ambivalence dans ce moment-là pour dessiner des questions sur la dépendance affective, la perte, le rapport aux autres. Donc il n'est pas vraiment sentimental.
Depuis le début en 2009, on a deux trilogies, on a ces deux romans, c'est quand même une production assez importante. Alors comment tu fais? Est-ce que tu travailles vite? Est-ce que c'est des romans qui étaient déjà en germe et tu les as complétés? Comment tu arrives à produire tous ces romans d'un coup?
Tous les deux, parce que finalement, là, ils sortent un peu tous en même temps, donc ça fait peur, mais les souvenirs perdus, la trilogie, je l'ai écrite de 2011 à 2013. Finalement, le premier tome est sorti seulement en mai 2014. Et ensuite, c'est des romans parfois de longue date, comme Métamorphose, qui sort en novembre, dont j'ai eu l'idée en 2008 et que j'ai écrit ensuite, pareil, de 2011 à 2014. Donc, j'écris quand même beaucoup, mais parce que c'est une nécessité, j'écris à peu près tous les jours, sauf en salon. Et que voilà, c'est une passion, donc c'est quelque chose qui ne manque pas d'écrire. J'ai un projet qui est là, il peut rester 2 ou 3 ans, mais je sais qu'à un moment donné, il faudra en accoucher. Et j'ai eu la chance, après mon travail chez Ubisoft pendant 2 ans, d'être acceptée en même temps par Syros, Rajo et Ravlon, qui fait que ça a permis un rythme de parution assez soutenu sur des romans qui étaient déjà en cours de travail.
Ça fait une belle production. C'est vrai que depuis ton premier roman en 2009, on a vu ton nom apparaître au fur et à mesure, New Media, avec le Psalm un petit peu qui est sorti. Et puis il y a une pierre marquante, c'est les stagiaires. On est en dehors de l'imaginaire, mais d'un seul coup, j'ai entendu une chronique à la radio, j'ai entendu sur France Inter. Alors parle-nous un petit peu de ce roman, comment est née l'idée, et puis de cette partie un peu réaliste de ton travail, des courriers d'imaginaire.
Les stagiaires est née d'une idée assez simple, c'est que j'ai moi-même été stagiaire dans le domaine du jeu vidéo. On avait un rituel en fait avec pas mal d'autres stagiaires, c'était de faire un brunch le dimanche où on discutait et on se plaignait entre guillemets de ce qu'on veut. Et un jour à ce brunch-là, je me suis dit, mais il faut écrire quelque chose là-dessus, puisque finalement le stage c'est vraiment devenu le sas obligatoire de la plupart des jeunes et de toute une génération. Et qu'il n'est plus le stage photocopieuse, mais vraiment un travail à part entière dans la ce qui est on est complètement dans l'immersion globalement de l'industrie créative, des médias, du divertissement et de finalement les effets quelque part de tous les idéaux de fiction qui ont constitué une génération. Et tous ces jeunes qui ont envie de travailler, que ce soit le cinéma, les mangas, les jeux vidéo, pour moi ça fait partie de toutes ces cultures des médias, de l'imaginaire. Et on a une forme de fantasme nourri de oui, j'aimerais travailler dans cette société parce que quand je suis jeune, je veux ce jeu, etc. Voilà, dans cette question d'émission parce que j'ai vu tous les décors. Et c'est l'exploration en fait de ces personnages pendant 6 mois de stage, leurs difficultés matérielles, psychologiques, parce qu'ils sont à un âge finalement qui est une forme de carrefour où tout est possible. Et en même temps, il y a des conditionnements sociaux, ça prend des termes. Et ce qui est intéressant, c'est de voir la solidarité qui se crée dans cette adversité. Tout ce petit groupe.
L'idée, c'est véritablement que là, tu trouves qu'il y a une matière romanesque à explorer, ou c'est vraiment la réaction, un peu le côté coup de gueule que tu as envie de transmettre à travers ou les deux?
C'est les deux, parce que la matière romanesque, je pense qu'il y en a énormément sur cette période de la vie, qui globalement, on va dire 20-25, où il y a énormément de mutations qui sont en cours. On termine les études, on commence le travail. On a dans les stagiaires des profils psychologiques très variés, ça va de Ophélie qui est la provinciale qui débarque à Paris, qui veut travailler en communication, qui n'a pas ses parents derrière, qui doit se débrouiller, etc. à Arthur qui lui est au contrôle de gestion, très grande école de commerce, la famille qui pousse derrière, qui travaille en banque, mais lui qui finalement se rend compte que c'est pas forcément ce qu'il a envie de faire de sa vie. Donc c'est à la fois l'exploration de toutes ces psychologies et en même temps dépeindre une forme de réalité. Et de dire que oui, c'est une forme d'esclavagisme malgré tout, même s'il y a des nuances, et qu'on peut dire que c'est bien, c'est un pied d'entrée, on ne pourra jamais pouvoir acquérir autant d'expérience, etc. Mais je crois qu'il y a vraiment un malaise social par rapport à cette question qui était un peu moins important de dépeindre avec la vie.
Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que il y a le côté expérience, mais il y a le côté un peu ce qui brille, c'est-à-dire la notoriété de l'entreprise, ce qui a fait rêver, sa célébrité qui compte. On a vraiment l'impression que les entreprises jouent là-dessus.
En fait, je me rends compte qu'il y a tout un tas de ressorts affectifs en fait, qui rentrent en ligne de compte dans ces sociétés qui incarnent une image que les jeunes ou les moins jeunes d'ailleurs ont comme une forme d'extension en fait, de leur identité. Ces jeunes-là, ils arrivent chez Pixis, qui a percé leur enfance, et du coup, ils sont très fiers de pouvoir le dire. Et quelque part, on se dit, est-ce qu'ils le font vraiment pour le faire, ou pour dire en soirée qu'ils bossent là-bas? C'est un peu toute la question. Et aussi, à une partie de perte d'idéal que je trouve assez intéressante, puisqu'il y a une forme de vitrine attrayante, qui brille, etc. Et se rendre compte finalement que, comme toute entreprise, celle-ci, même si elle est sympa, qu'elle est cool, qu'il y a des boissons gratuites, qu'il y a une salle de sport, etc., ben finalement, on est dans des lois purement économiques. Il faut une rentabilité, un travail, et qu'en même temps, du point de vue des ressources humaines, on joue là-dessus en disant « Mais ils sont déjà tellement heureux d'être ici avec nous, c'est un vrai privilège !» Je trouve que ça pose des vraies questions d'éthique, en fait, sur les entreprises et le pouvoir qu'elles peuvent exercer à travers leur image.
Pour ce moment, je me souviens de t'avoir entendu sur France Inter, presque comme la représentante des stagiaires portant une cause, là on était vraiment au-delà du travail de l'auteur. Comment est-ce que tu l'as vécu, cette petite...
C'était drôle, puisque sur France Inter, c'était une stagiaire qui m'avait interviewé et qui tenait à faire passer cette interview avant de partir de son stage. Donc voilà, la mise en avis n'était pas faite. Mais oui, il y a eu une vraie couverture presse sur les stagiaires. Après, voilà, je ne pense pas être la représentante de quoi que ce soit, mais j'ai essayé... par l'image et par mon vécu, par la fiction de représenter à mon sens une expérience que je pense est vécue par pas mal de personnes, tout en restant dans la fiction, c'est-à-dire que c'est une histoire d'amour, c'est une histoire de bourreau, voilà, ça reste parfois assez léger sur beaucoup de choses, mais en essayant de tisser cette trame de fond qui va en tout cas interroger, sans forcément partir entre nous.
La passerelle entre les genres, on vient de te voir là, plutôt dans l'imaginaire, on te voit sur du réalisme. Alors, comment est-ce que tu choisis un petit peu les histoires? Est-ce que ce sont des univers qui s'imposent? Ou est-ce que tu dis, bien sur cette histoire-là, un petit peu de magie, ça me permettrait de faire ou de dire d'autres choses? Comment tu fais la passerelle?
En fait, la passerelle ne se fait pas vraiment, puisque l'idée arrive et après elle m'habite. du genre, c'est une idée qui arrive, une collision d'informations à un moment donné, une envie, et ensuite, voilà.
Alors, dans les stagiaires, on a vu que les jeux vidéo, on a vu que les mangas, on va parler du soft, mais on va parler aussi des mangas, deux bouquins chez Nobinomi, éditeur jeunesse, mais japonisant, je ne sais pas si le terme est très joli, mais voilà. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur les deux? Alors, il y a La Princesse au bol enchanté, et Katori, Le Chant du Kotori, Le Chant du Bonheur. J'écris là.
Nobinomi, je les ai rencontrés en salon en 2009. Et donc, c'est un petit éditeur qui a pour vocation de faire découvrir le Japon par le biais de graphisme assez manga, en fait. Parce que tous les illustrateurs de leur collection sont japonais. Et du coup, ils m'ont proposé de travailler sur des contes traditionnels, donc La Princesse au bol enchanté et Kotori, Le Chant du Moineau, qui sont des histoires fondatrices, en fait, de la culture japonaise, comme nous, on aurait le petit chapeau rouge, le Cendrillon, par exemple. Du coup, en fait, j'ai repris les textes originaux en anglais, hein, parce que j'étais pas très capable de lire le japonais. Et on a travaillé là-dessus à faire une sorte de synthèse, on garde vraiment l'essence de ce conte-là, mais tout en le réactualisant d'une certaine façon et en le rendant accessible sur un certain nombre de pages déterminées à l'avance par la collection avec des graphismes assez bluffants. Aïe, notamment, qui est l'illustratrice de La Princesse au bol enchanté, a fait des choses magnifiques. Elle a 20 ans, elle est autodidacte, voilà. Mais oui, surtout, c'est une collaboration très intéressante puisque là, on est vraiment sur le compte. En même temps, des thématiques comme dans beaucoup de contes qui restent assez fortes, avec la mort, le deuil, la transformation, etc. C'est une très belle expérience.
La culture japonaise, c'est ta culture, la culture manga, c'est quelque chose que tu as bossé spécifiquement pour Nobinomi ou tu baignais déjà un petit peu dedans?
Je crois que quand on a joué au Final Fantasy et à Pokémon pendant son enfance et son adolescence, on est marqué en tout cas par une génération japonisante. Je pense que Japan Expo par exemple, c'est très très bien. Qui en plus, là, c'est plusieurs générations superposées, parce qu'on n'a pas toujours les mêmes références. Donc j'ai grandi là-dedans et j'aime bien assumer un côté pop culture à ce niveau-là, en même temps d'avoir fait des études littéraires très classiques. Donc j'assume de jouer encore à Pokémon.
Bien, ça c'est dit. Un petit mot sur Ubisoft et sur le côté gameuse, ce que tu disais. Comment est-ce que ça t'a influencé? Quelle part ça a pris chez toi? L'idée de dessiner un petit peu ton imaginaire, hein, entre le jeu, le Japon, la littérature.
Ubisoft, c'est une expérience particulière puisque c'était un stage où j'étais à la communication internationale, donc globalement j'écrivais des articles. Et ensuite j'ai travaillé sur Heroes of Might and Magic dans l'équipe de production. Mon rôle était en fait de générer une bible de l'univers avec toutes les informations qui étaient déjà mises en place depuis 25 ans sur la marque, qui a donné un livre en anglais qui s'appelle Ashen Compendium. Et voilà, c'est une synthèse de tout l'univers de Might and Magic, les différentes factions. Voilà, c'est un peu long. Et ce qui était intéressant, c'était de travailler avec les scénaristes pour arriver à rationaliser les incohérences qui avaient été trouvées. Parce que comme la marque Might and Magic a été rachetée en fait par Ubisoft, ils ont décidé de retravailler tout l'univers pour partir sur une fantasy un peu rationalisée et un peu moins high fantasy.
La place du jeu dans ton imaginaire. Tu es gameuse.
Ouais. Oui, je joue. Alors je joue moins qu'avant, mais par exemple The Last of Us, là récemment, je trouve ça assez phénoménal. On a beaucoup à apprendre du jeu vidéo en termes de narration notamment. Et en termes d'atmosphère, d'ambiance, j'ai envie de dire, un peu comme les séries, hein, c'est maintenant on est dans des narrations assez variées sur différents médias. Et du coup le jeu, c'est quelque chose qui reste assez imprégné, qui parfois je pense se retrouve dans la façon d'écrire, peut-être un peu plus cinématographique pour certains romans. Donc ça reste une pierre angulaire.
Est-ce que ça veut dire que si le jeu dans la construction de l'univers sur tes romans peut t'influencer? Parce que là on a vu les techniques de narration.
Oui, je pense que par exemple les Final Fantasy, si je prends ça, des flashbacks, raconter leur histoire. Finalement, ça donnait envie de faire ses propres tâches de personnages. Peut-être que le jeu vidéo est l'équivalent du, bah, du jeu de rôle à l'époque, dans l'influence de mon génération. Mais oui, en termes de construction, sur les personnages, je trouve que j'ai des réflexes de jeu vidéo, de faire ma petite fiche personnage.
Tu as un master de lettres appliquées et de lettres appliquées aux techniques éditoriales et à la rédaction professionnelle. Ça fait peur comme ça. Mais est-ce que ces études-là, orientées tout de suite en lettres, ça t'a permis aussi d'apprendre à écrire et de structurer tes récits ou des choses comme ça? D'apprendre non, puisqu'on a vu que tu écrivais déjà, mais est-ce que faire des études en lien, ça t'a aidé dans ton travail d'écrivain?
Globalement, il y a des choses qui sont en train de se passer, mais on n'a pas de master d'écriture créative comme on peut avoir aux États-Unis. Du coup, lettres comparées, j'ai fait deux masters, j'ai fait littérature comparée et ensuite un master d'édition et de technique appliquée, blablabla. Et puis là, qui était juste un travail d'empathie en disant que je travaille avec des éditeurs, donc tu as envie de savoir quelle formation il faut pour voir un truc. Voilà. Donc celui-ci ne m'a pas appris grand-chose à part que mes enseignants m'expliquaient qu'il fallait prendre des études, des auteurs pour des débiles et ne rien leur dire.
Écrire pour les adultes, écrire pour la jeunesse, écrire pour Cyrus, est-ce que c'est le même travail? Est-ce que ce sont les mêmes contraintes, les mêmes thématiques? Comment tu gères ces différents publics-là?
La différence jeunesse-adulte, je la trouve toujours très ténue et douloureuse, parce que Raison est d'abord sorti comme un roman de jeunesse, et Brajlon l'a ressorti en adulte. Je me suis retrouvée dans des librairies avec des libraires qui me disaient « Ah, moi je refuse de mettre ce roman en jeunesse parce qu'il y a... » Il y a de la violence, il y a des thématiques assez dures. Et de l'autre côté, il y a des gens qui me disaient oui, bon, ben, c'est des ados, donc ça devient assez jeunesse. Au final, ce que je comprends de mieux en mieux, c'est que les tabous de la littérature jeunesse, c'est le sexe et la religion pour le moment. La violence peut-être pas tant que ça. Quand on lit Peter Pan, le texte original de James Barry, on voit que Peter, dans la version première, tue les enfants du monde imaginaire. Je crois que voilà, c'est une question éditoriale en fait, qui se pose pour les éditeurs. En tant qu'auteur, je trouve ça toujours assez difficile de savoir dans quelle mesure on va dire ou pas des choses. Je crois que la majeure contrainte, c'est la gravité. Parce que ce qui est vrai, c'est que quand on a 13 ans, on n'a pas forcément le même vocabulaire, les mêmes références à construire. La force d'un beau roman jeunesse, je pense que c'est un double niveau de lecture en fait. Réussi à la fois à permettre de augmenter, d'être accessible en fait aux jeunes et en même temps de pouvoir apporter aux adultes. Du coup, j'essaie de ne pas trop me poser ces questions, mais je me concentre sur mon histoire, de me poser la question de la clarté, mais en tout cas de ne pas réviser le contenu en disant que ça va être compliqué.
Un petit mot sur le image d'âge des lycéens. Alors, c'est intéressant, sur les lycéens, donc. Les ados post-ados. Est-ce que ça a compté pour toi et ce dialogue avec les lycéens? Est-ce souvent les autres en jeunesse disent que c'est très riche parce qu'ils ont la dent très dure, mais aussi beaucoup d'enthousiasme. Alors, est-ce que le prix a compté puis après la relation publique?
On a énormément compté puisque vraiment en 2009 j'étais publiée chez un tout petit éditeur. Déjà d'être sélectionnée sur ce prix-là, je ne croyais pas du tout. Et de l'obtenir, c'était vraiment une gratitude énorme. Dans la troupe du livre d'or qui est constitué avec des bandes dessinées sur le roman, des poèmes. Là, on sent un vrai dialogue en fait sur ça. Il a compté aussi parce que je pense que ça a attiré l'attention de plusieurs visiteurs, notamment de
Parle un petit peu de Métamorphose, le prochain, qui arrive. Qu'est-ce que c'est que ce roman? Est-ce que ça veut dire que Oraison, c'est ton œuvre la plus marquante, tu vas revenir dans cet univers?
Je pense que j'ai eu ma dose pour un moment. Parce que Métamorphose, ça a été très long. Au final, je travaille sur cet univers depuis 2005. Ça a bientôt fait 12 ans. Et je crois que là, j'ai refermé pour le moment quelque chose. En racontant l'histoire de Sonal, c'était tout un pan de cet univers que je voulais explorer. Une autre façon d'aborder les personnages aussi.
Il nous reste un petit quart d'heure. Est-ce que quelqu'un a une question, c'est bon, pour Samantha, faisant un avis sur ses romans? Est-ce que quelqu'un était stagiaire un jour, s'est fait exploiter aussi? Personne? Alors ma dernière question, c'est, je l'ai dit au début, 5 ans. Comment est-ce que, quel est un peu le bilan de ces premières 5 ans en tant qu'écrivain? Ces premières années, puis comment est-ce que tu te vois évoluer maintenant?
C'est une question difficile.
Oui.
Le bilan est. En fait, à la base, mon idéal était de vivre de l'écriture. C'est comme ça que j'avais toujours vu ma vie. Et je me rends compte que j'ai atteint, réalisé entre guillemets ce rêve, tout en comprenant aussi certaines limites, qui est que pour exister, en fait, il faut écrire beaucoup et publier beaucoup. Et là, j'ai terminé vraiment un cycle créatif d'énormément d'idées qui ont perduré pendant 10 ans. Et là, je me sens vraiment dans une période de renouvellement où je ferme des univers, des portes. Je vais travailler comme ça pendant 5, 6, 7 ans pour aller, en tout cas, vers, j'espère, encore plus de densité. Et surtout, prendre le temps, même si ça paraît paradoxal, c'est plutôt une période de recul où je travaille des projets en fond sans être pressée, même si le rythme de parution que je pense c'est penser que, et j'essaie de trouver mon rythme petit à petit et surtout garder l'authenticité puisque ça m'intéresse pas du tout de sortir des livres pour sortir des livres, et que l'enjeu c'est d'arriver à continuer à vivre tout en écrivant les histoires que j'ai envie d'écrire et de pas me couper de ce qui est commercial, de ce qui se vend ou pas. Il reste une pression évidente puisque en fonction des droits d'auteur, c'est la rémunération, donc il y a quand même une tension matérielle derrière. L'idée, c'est de faire abstraction de ça et de se dire que mon boulot, c'est d'écrire et de garder ça en tête.
Alors, ça veut dire que les prochains projets, quelles sont un peu les thématiques que tu vas explorer?
Alors, les prochains, ce sera un roman Tirago, un diptyque. Le titre, on va dire, pas définitif, mais deux âmes jumelles. Je parle en fait de deux adolescentes qui sont au lycée, qui se rencontrent à travers un forum de discussion et qui sont passionnées d'écriture, de dessin et vont finalement suivre leurs rêves en se soutenant l'une l'autre. Donc ça parle de l'adolescence, de la question de l'orientation, des rapports un peu durs au lycée et puis des systèmes familiaux qui sont opposés. Donc ça c'est un projet qui est en cours, qui sortira, dans le premier temps sortira au mois de mai, un peu sur la joue. Et ensuite je vais continuer avec mes amis des stagiaires, parce que j'écris aussi la suite, qui s'appelle Adore et Déterminé. On suit en fait certains personnages du premier tome qui continuent en CDD cette fois. Et donc on va encore plus loin dans l'exploration de leur petit groupe et de l'entreprise.
Merci beaucoup Samantha. Et vous pouvez la retrouver tout de suite en dédicace. Merci à tous.